Radio Okapi.
Merci d'être avec nous à cette heure-ci. Il est 18h et vous écoutez la grande édition du soir sur Radio Okapi. Je suis Gisèle Cage, heureuse de vous retrouver pour vous présenter des informations fiables, vérifiées et essentielles. Voici les titres. Kinshasa enclenche le grand nettoyage. Démarrage du marquage des périmètres avant la démolition des constructions anarchiques dans la baie des Ngaliema. Ituri, le parlementaire se mobilise. Le caucus provincial ouvre des consultations pour répondre à l'activisme de la CRP et à l'urgence humanitaire. Bafoua Sende au cœur de l'enquête. Cacao, concession et réalité paysanne. L'invité du jour, le professeur Alphonse Maindo, explique les enjeux de la mission menée par Trompe Boss RDC et Tenure Facility. À Kinshasa, l'heure du grand nettoyage urbain a sonné. Ce lundi, l'hôtel de ville trace la première ligne des zones promises à la démolition dans la baie de Ngaliema, où les constructions anarchiques vivent leurs dernières heures. L'annonce a été faite samedi par le ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba, après une descente conjointe avec le vice-premier ministre de l'Intérieur. Le message de Jacquemin Chabani est clair. L'opération vise à remettre de l'ordre dont le paysage urbanistique est à libérer les emprises publiques occupées illégalement, prévenir les inondations, sécuriser l'accès à l'eau potable et protéger durablement les habitants de la capitale. L'État dit agir pour le respect des normes et la sécurité des citoyens. On en sait davantage avec vous, Alain Hirung.
Cette urbanisation désordonnée dans la baie de Ngaliema obstrue le point de captage de la régie des eaux qui alimente plus de 14 communes de la capitale. René Tokodiatou, le directeur de la distribution de la régie des eaux Ouest, explique que cette situation compromet l'approvisionnement en eau potable.
Nous avons pu fonctionner normalement à cause de l'occupation anarchique de cet espace. Il y a des travaux qui ont fait que l'eau ne sait plus couler normalement et notre captage dont nous sommes ne sait plus fonctionner.
À l'époque, on avait 8 mètres de profondeur entre la crépine et le fond du fleuve pour prendre l'eau. Nous sommes à moins de 2 mètres. Ce qui fait que lorsque nous captons l'eau, on a même de sable. Les sables détruisent maintenant nos pompes.
De son côté, le ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba, regrette que malgré les précédentes opérations de délimitation des zones interdites à la construction dans la baie de Ngaliema, certaines personnes persistent à enfreindre les règles.
Je préfère annoncer à nos frères et sœurs qui investissent ici de cesser parce qu'ils vont perdre leur investissement pour rien. On va délimiter les zones. Encore une fois, parce qu'on avait déjà délimité. Et si vous regardez à gauche et à droite, vous allez voir que nos amis, nos frères et sœurs continuent de perdre leur argent, continuent à construire.
Léon Moulumba a confirmé que les démolitions débuteront au cours de cette semaine.
Et pendant que la capitale affine son paysage urbain ailleurs dans le pays, c'est le secteur de l'éducation qui avance à grands pas. Deux écoles modernes ont été inaugurées ce week-end dans la commune de Luena, province éducationnelle du Haut-Lomami, deux sous-divisions de Bukama 4. Ces infrastructures réalisées par le gouvernement national dans le cadre du projet de développement de 145 territoires marquent une première historique pour cette commune. Les détails dans ce condensé de Paulin Mounanga rendu par Alain Hirung.
Habillés en uniforme bleu et blanc, les élèves alignés devant les nouveaux bâtiments de la commune de Luena ont scandé des chansons à l'occasion de l'inauguration de ces infrastructures scolaires. Ces nouveaux établissements abritent l'école primaire Luena 1, non conventionnée, ainsi que l'école primaire Dialungana 2, conventionnée kimbanguiste. Chacune des écoles comprend 6 salles de classe équipées de 20 bancs pupitres, pouvant accueillir 60 élèves par salle. Chaque classe dispose également d'une table avec tiroir et d'une chaise pour l'enseignant. Les infrastructures comprennent en outre un bureau du directeur avec secrétariat et réception, une salle des enseignants, des latrines et douches internes, ainsi que des latrines externes hydriques séparées pour filles et garçons. L'électricité et des châteaux d'eau ont également été installés. Chaque école possède une salle polyvalente destinée à l'organisation des réunions et d'autres activités. Selon Florentin Yamakwese, directeur de l'école primaire Dialungana 2, cet établissement public construit en 1977 a été à plusieurs reprises victime des catastrophes naturelles, ce qui rend l'avènement de ces nouveaux bâtiments particulièrement significatif.
L'attention se tourne à présent vers l'est du pays où les enjeux restent cruciaux. En Ituri, le caucus de parlementaires de la province a entamé ce lundi à Bunia une série de consultations avec différentes couches de la population. L'objectif, évaluer la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la dernière session parlementaire, notamment sur le volet sécuritaire, humanitaire et socio-économique. Selon le président du caucus, les défis persistent, en particulier l'activisme de la milice Convention pour la Révolution populaire, CRP, responsable d'une hausse continue du nombre de personnes déplacées. Le point complet avec Isaac Remoyope.
C'est lundi matin, les parlementaires de l'Ituri ont d'abord rencontré les bureaux de l'Assemblée provinciale. Ils vont ensuite s'entretenir avec le chef de la MONUSCO en Ituri, ainsi qu'avec le gouverneur de province. Au centre des échanges, la situation sécuritaire et humanitaire, marquée par l'intensification des attaques attribuées à la milice CRP dans plusieurs entités du territoire des Djougou. Ces violences ont provoqué les déplacements de nombreux habitants qui viennent s'ajouter aux milliers d'autres déplacés vivant déjà dans des conditions précaires, souvent sans assistance humanitaire suffisante. Selon le président du caucus, l'une des principales recommandations de la dernière session concernait l'adhésion de tous les groupes armés au processus de paix en Ituri, une recommandation actuellement en cours d'évaluation avec les différentes institutions. Sur le plan économique, le président du caucus a également annoncé la signature la semaine dernière d'un contrat entre le gouvernement et l'entreprise Good News à Kinshasa pour l'asphaltage du tronçon Komanda-Goudi long d'environ 250 km. Pichu Iribi indique que ces avancées sur les résultats des plaidoyers menés par les parlementaires dans le cadre des suivis des recommandations précédentes. La clôture de ces consultations est prévue pour vendredi prochain. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, nouvelle nuit de violence dans les agglomérations de Kibirizi et Bambo. Au moins une personne a été tuée, trois autres blessés et un camion réduit en cendres entre dimanche et ce lundi. Les faits se sont déroulés dans le groupement des Mutanda et Bambo. Bambo, chefferie de Buito, territoire de Rutshuru. Selon plusieurs sources locales, ces incidents seraient consécutifs à une incursion d'hommes armés et à des violents affrontements impliquant d'un côté la FC M23, de l'autre le Wazalendo, avec la présence des combattants FDLR. Vous avez les détails, Élisée Chikota.
D'après les habitants de la région, des tirs nourris ont été entendus aux alentours 1h du matin dans l'agglomération de Bambo. Un obus a également frappé une maison d'habitation, causant d'importants dégâts matériels, mais sans faire de victimes humaines. Dans la même localité, un camion appartenant à des commerçants qui aurait transporté des biens supposément destinés aux rebelles de l'AFC M23 a été incendié. Les mêmes sources rapportent que ces dégâts sont consécutifs à un affrontement opposant les éléments de l'AFC M23 aux combattants présumés Wazalendo, CMC et FDLR embusqués dans la zone. À quelques kilomètres plus à l'ouest, une incursion d'hommes armés non identifiés a été signalée dans le village de Kabanda, près de Kibirizi, entre 3h et 4h du matin. Deux biens de la population ont été pillés. Un jeune garçon, connu sous le nom de Jade, a été tué, tandis que trois autres civils ont été blessés. Ces derniers sont internés au centre de santé de référence de Kibirizi pour des soins. Pour rappel, plusieurs localités de la chefferie de Buito sont plongées dans une recrudescence des violences depuis quelques semaines. Selon des sources locales, la situation résulte notamment d'une opération de traque menée par la FCM23 contre des présumés rebelles Hutu rwandais, FDLR et leurs alliés locaux, parmi lesquels le combattant du collectif des mouvements pour le changement, CMC Nyatura.
Et au cœur du Nord Kivu, les notables de Lubero s'affirment clairement. Ils apportent leur soutien total au mécanisme de vérification du cessez-le-feu adopté le 25 janvier par la Conférence internationale sur la région du Grand Lac. Pour ce leader locaux, c'est aujourd'hui la seule voie capable d'alléger les souffrances des habitants pris au piège dans les zones encore occupées par le rebelle du M23 AFC. Par téléphone, Eze Kanindu, l'un des notables de Lubero, explique les enjeux et les attentes de la population. Il est au micro de Marc Marofimbo.
Tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu effectif et la création des zones tambour entre les FRDC et les éléments AFC M23, ce mécanisme risque de ne pas aboutir aux résultats escomptés. Nous suggérons au président angolais, médiateur désigné de l'Union africaine, de mettre les pieds sur l'accélérateur envie d'aboutir au cessez-le-feu effectif est la création des zones Tambo qui seront supervisées par la MONUSCO dans le but de veiller au respect de ces derniers. Sur ce, les éléments AFC M23 devront se retirer de Katondi jusqu'à Kanyabayonga dans le territoire de Lubero et Bunagana jusqu'à Sabinho dans le territoire de Rutshuru. Ils devront également laisser l'aéroport de Goma et de Kavumu sous la supervision de la MONUSCO, mais également les postes frontaliers entre la RDC et le Rwanda. Et c'est là où manifester leur bonne foi.
La présence massive et multiforme de groupes armés dans le territoire de Fizi continue de peser lourdement sur l'écosystème de cette entité du Sud Kivu et au-delà de l'insécurité permanente. Une autre menace se dessine clairement. La faune et la flore sont aujourd'hui en grand danger. Ces groupes exploitent sans relâche les ressources naturelles pour assurer leur survie. L'administrateur du territoire, Sami Kalonji Badibanga, dresse un tableau particulièrement sombre de la situation environnementale dans sa juridiction. Ces propos ont été recueillis par Jean Kassami.
Pendant cette période de guerre, certains groupes armés trouvent une occasion d'exploiter le bois rouge le plus recherché, abattage abusif des arbres pour fabriquer des braises, pour arriver à exploiter facilement de l'or. Les animaux que nous avions à l'époque qui faisaient la fierté du territoire des Fizi, notamment l'hyène, les éléphants, n'existent plus parce qu'ils ne trouvent pas leur habitat naturel. Toute cette forêt est détruite par les groupes armés. La rivière Mutambala à Malinde est en train de se rétrécir. Les arbres sont coupés abusivement parce qu'en amont de cette rivière, on exploite de l'or. Puis à l'époque, il y avait d'arbres médicinaux, mais aujourd'hui, toute la flore est détruite. Il y a déjà les moustiques, une très forte chaleur, la crue de rivière sur le littoral du lac Tanganyika, précisément à Kazimia, ce qui commence à faire comprendre à la population que nous devons songer à un plan B et qui est celui de reboiser et interdire les coupages abusifs d'arbres dans notre territoire de Fizi.
Le collectif du 16 février appelle à privilégier la non-violence dans toute démarche de revendication en République démocratique du Congo. À l'occasion de la commémoration des 34 ans de la journée des martyrs de la démocratie, ce lundi à Kinshasa, l'abbé José Mpundu, l'un des membres du collectif, a rappelé que la non-violence demeure une valeur fondamentale dans la quête de justice et de changement. Le prélat catholique a également plaidé pour l'organisation d'un dialogue inclusif, estimant qu'il s'agit d'une condition essentielle pour établir une paix durable et permettre le développement du pays. Cette journée commémorative rend hommage aux chrétiens catholiques tués lors de la marche pacifique du 16 février 1992 organisée pour exiger la réouverture de la conférence nationale souveraine. Province du Tanganyika, tension en ligne. À Kalemie, la délégation syndicale de l'université de Kalemie, l'UNICAL, monte au créneau et demande à tous les enseignants ainsi qu'à l'ensemble de la communauté studentine de garder leur calme. Dans un document arrivé ce dimanche à la rédaction de Radio Okapi, le syndicaliste dénonce un message qui a circulé sur les réseaux sociaux appelant à une grève et à une manifestation des étudiants. La délégation parle d'une désinformation flagrante, un message truffé d'allégations fausses et malveillantes. Un papier signé Paulin Munanga, présenté par Vicky Odia.
La communauté universitaire de l'UNICAL, par son bureau syndical, n'est pas responsable de ces faux documents et rassure toute la communauté de la bonne marche de toutes les activités académiques. La délégation syndicale met en garde les auteurs de ces documents, je cite, qui chercheraient à discréditer l'image de l'université de Kalemie, cadre de formation de nos enfants. Fin des citations. Pour rappel, ce week-end, un tract a été jeté dans la ville de Kalemie, appelant à la grève et à la manifestation des étudiants. Le recteur de l'UNICAL ainsi que certains étudiants contactés par Radio Okapi ont confirmé la présence d'un malaise au sein de cette institution universitaire. Cependant, les recteurs rejettent en bloc les allégations mentionnées sous ces tracts. C'est notamment l'accusation de mégestion du comité de gestion de l'UNICAL, l'absence prolongée du recteur au sein de l'institution et le non-paiement des enseignants. Signalons qu'un calme s'observe ce lundi à l'UNICAL et les cours sont dispensés normalement.
Dans la cité de Mwanda, au Congo central, 30 corps d'indigents ont été inhumés ce week-end grâce à l'opération Zéro Cadavre d'indigents à la morgue menée par l'hôpital général de Mwanda avec pour objectif d'ici mars de vider totalement la morgue de ces corps non réclamés. Une initiative humanitaire qui s'inscrit dans une démarche plus large lancée le 4 février dernier par l'élu de Mwanda, Jean Kimboko Ndombasi, pour offrir une sépulture digne à ces personnes et libérer l'unique morgue de cette cité littorale de la République démocratique du Congo. Reportage signé Nana Plurish Mambou.
Ces 30 dépouilles non réclamées et inhumées au cimetière de Makaisamba à Mwanda, sous la supervision de l'administrateur du territoire adjoint Nicolas Kindwelo, sont majoritairement des malades mentaux, des nouveaux-nés, des indigents, ainsi que de certains Congolais revenus de l'Angola pour des raisons de santé. L'opération Zéro Cadavre d'indigents à la morgue de Mwanda va se poursuivre, car une trentaine de dépouilles non réclamées traînent encore dans cette chambre mortuaire saturée qui n'est plus à mesure de recevoir d'autres corps. L'élu de Mwanda, le député provincial Jean Ndombasi Kimboko, qui en est l'initiateur, félicite toutes les personnes qui se sont impliquées pour parvenir à ce résultat.
30 corps d'indigents ont été inhumés. Nous attendons une évaluation du médecin directeur de l'hôpital de référence de Mwanda pour passer à la dernière étape. Merci à tous ceux qui ont concouru à ces résultats. L'opération Zéro Indigent dans cette morgue à partir du 1er mars ne sera jamais une simple déclaration.
Rappelons que la morgue de l'hôpital général de Mwanda a une capacité d'accueil de 40 corps. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En dépit des critiques des Nations Unies et de plusieurs pays de la région, Israël poursuit la mise en place des mesures qualifiées d'annexation par ses détracteurs en Cisjordanie. Dimanche 15 février, le gouvernement israélien a approuvé un nouveau mécanisme d'enregistrement de terres palestiniennes, ouvrant la voie à leur classement comme propriété de l'État. Cette décision rompt avec l'esprit des accords d'Oslo qui prévoyaient, dans les années 1990, transfert progressif de l'administration de la Cisjordanie vers l'autorité palestinienne. Plusieurs pays arabes ainsi que l'Union européenne ont dénoncé cette initiative, estimant qu'elle renforce le risque d'annexion. L'Arabie saoudite a déclaré qu'il s'agit d'une atteinte aux efforts de paix et à la stabilité régionale. Le processus de normalisation amorcé entre Riyad et Israël, déjà mis en mal par la guerre à Gaza, s'éloigne encore davantage.
L'invité.
La semaine dernière, une mission conjointe des Trump et Boss RDC et de Tenure Facility, son partenaire technique et financier, s'est rendue dans les territoires des Bafouassindé, notamment dans les secteurs de Bekene, Kondolole et Bukundumu. Sur place, la délégation a parcouru plusieurs champs de cacao exploités par les paysans au sein des concessions forestières et s'est longuement entretenue avec eux pour saisir au mieux les réalités du terrain. Pour comprendre les enjeux de cette mission et ses retombées, nous recevons aujourd'hui le professeur Alphonse Maindo, directeur des Trompe et Boss RDC. Il s'entretient avec Jacques Moukonkole.
Professeur Alphonse Maindo, bonjour.
Bonjour.
Quel était l'enjeu principal de cette visite?
Pour nous, l'enjeu principal, c'était de vouloir s'assurer que nos partenaires financiers et techniques de Tenure Facility puissent arriver ici pour voir que ce que nous avons toujours écrit dans nos rapports en termes de réalisation de ce programme de sécurisation foncière et des moyens d'existence de communautés locales, parce que c'est pas des inventions d'esprit, c'est pas des rapports qui sont pondus dans nos bureaux, tout ça, et que ça traduit effectivement ce qui se passe sur le terrain par les actions que nous menons grâce à leurs appuis. Et donc c'était pour nous très important qu'ils puissent venir rencontrer les communautés, qu'ils puissent parler avec eux, avec les communautés, les peuples autochtones. Mais aussi, l'autre enjeu, c'était de montrer à ces communautés-là que et ces peuples autochtones qui ne sont pas seuls et que les gens ne sont pas seulement en train de leur envoyer l'argent, mais que les gens les considèrent également comme des personnes à part entière, qui ont droit à la dignité et tout ça. Et donc, venir passer ce temps avec eux, pour nous, c'est quelque chose de très essentiel et c'est très motivant.
Les communautés n'ont pas hésité à demander un peu plus. Est-ce que cela vous facilite la tâche?
Vous savez, les besoins sont illimités. Vous satisfaisez un besoin et il y a d'autres qui naissent et tout ça. Et donc, pour nous, ce n'est pas une surprise puisque on travaille avec les communautés depuis de très longues années. Et donc, on connaît ces problèmes-là. Pour nous, ça ne facilite pas la tâche. Ça montre justement l'intérêt du travail que nous faisons et qui faire de nouvelles, d'ouvrir des besoins ou qu'il y ait d'autres partenaires. Ce que nous avons toujours demandé, qu'il y ait d'autres partenaires qui interviennent dans la zone ici. Par exemple, les gens quand nous demandent des questions d'alphabétisation ou des questions d'amélioration de l'habitat et tout ça. Ça, ce n'est pas dans notre compétence. Ou les gens demandent des centres de santé ou des maternités. Ce n'est pas notre compétence. Donc, ou des gens qui demandent de l'eau. Donc ça, le fait d'entendre les gens exprimer ce besoin, ça nous permet aussi, grâce à vous également, de pouvoir relayer ce message auprès d'autres partenaires qui ont des spécificités, qui travaillent sur ces questions-là, de pouvoir venir de répondre à ces besoins. Parce que si vous voulez, l'homme, c'est un tout. Il n'y a pas que les droits fonciers, il y a aussi d'autres droits économiques, sociaux et environnementaux et civils et politiques. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Et donc, il faut qu'il y ait davantage d'ouvriers qui viennent pour mettre la main là-bas. C'est comme ça que moi, je comprends ces nouveaux besoins qui sont exprimés ici, dans ces communautés.
Comment avez-vous préparé les paysans pour cette visite parce qu'ils n'ont pas hésité à exprimer leur satisfaction et leurs difficultés?
Il n'y a pas eu une préparation particulière. C'est le travail de toutes ces années d'accompagnement qui a parlé, en fait, qui fait le travail. Ce n'est pas quelque chose qui est, si vous voulez, instrumentalisé. Les gens parlent de leur cœur et on voit les témoignages et on voit les réalisations que les gens ont pu voir dans leur vie. Quand on voit par exemple une maman qui vous dit voilà, moi je peux maintenant faire étudier mes enfants, moi j'ai une moto et vous voyez la moto. Donc ça parle de soi. Donc on n'a pas besoin de préparer les gens pour ça, puisque c'est les fruits, si vous voulez, du travail qui est fait depuis de longues années grâce au suivi de proximité de mes collègues et d'assistants techniques qui sont là sur le terrain et qui font un travail formidable, si vous voulez, en restant dans ce commentaire dans des conditions qui sont parfois difficiles, j'admets et j'avoue. Donc c'est aux outils là qu'on voit et qui parlent et qui poussent les communautés ici. Et c'est pour ça que pour renforcer ce travail-là, nous avons obtenu l'année dernière ici l'ouverture d'un bureau de proximité pour coordonner tout ce travail de terrain ici.
Quelle est la leçon que vous pouvez tirer de cette visite?
La grande leçon, moi j'ai tiré de tout ça, c'est que lorsque vous avez dans un milieu donné des leaders, des gens qui ont une vision, vous avez quelqu'un qui partagent aussi cette vision avec les autres, il y a des résultats qu'on peut avoir. Et si vous avez ces résultats-là, ça parle de soi, ça parle pour vous, donc vous n'avez pas besoin de faire de discours, vous n'avez pas... et donc ça parle tout ça. Et c'est ce qu'on voit quand on a été par exemple à Bafouazana, on voit là, on voit par exemple une dame comme Maman Élisée qui prend des initiatives et qui mobilise d'autres femmes et qui voit sa vie s'améliorer et qui veut pas rester toute seule et qui partage ça avec les autres. Mais vous savez que dans ces milieux-là, parfois, un milieu un peu reculé, quelquefois quand vous sortez de la tête de l'eau, vous pouvez être mal perçu, on peut vous accuser de tout, on peut vous accueillir de sorcellerie. Donc je vois quand j'entends ici les différents organes de gestion, la CFC, les rapports que ça crée et ça modifie un peu le relation, cohésion sociale, la cohabitation, l'unité, la solidarité, l'assistance mutuelle pour essayer de promouvoir les choses. Et je vois que ça transforme. Et les vies individuelles, on voit des trajectoires des gens qui améliorent leurs conditions de vie, mais aussi des gens qui obtiennent davantage d'estime et de prospérité, mais surtout confiance de soi. Si vous voulez qu'il s'accroît, quelqu'un, il se sent vraiment valorisé puisque il arrive à réaliser ce qu'il a. Il a toujours rêvé de sa vie.
Professeur, le bailleur semble satisfait de réalisation sur le terrain. Quelle sera la prochaine étape qu'ils auront repris l'avion?
La prochaine étape, c'est le travail. Et l'étape suivante, c'est le travail et le travail.
Professeur Alphonse Maindo, merci.
Je vous en prie.
Professeur Alphonse Maindo, directeur des Trompe et Boss RDC, il nous éclairait sur les enjeux de la récente mission effectuée dans les secteurs de Bekene, Kondolole et Bukundumo. Propos recueillis par Jacques Mokonkole. Vous venez de suivre votre grande édition du soir sur Radio Okapi. Merci pour votre confiance. La mise en onde a été assurée par Pierre Diassinois. La coordination éditoriale par Élisée Chikota sous la supervision d'Alain Hirung. Présentation par Gisèle Cage. Radio Okapi, la radio de la paix, continue de vous informer en continu sur nos programmes et nos plateformes numériques. Bonne soirée à tous.